Quand on parle d'agriculture ou quand on parle d'alimentation, il y a toujours un parent pauvre qui est le sol lui-même. On marche dessus sans s'en soucier. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce qu'est le sol et pourquoi on a tort de le négliger, parce que c'est le soubassement de tout ce que l'on cultive et de tout ce que l'on mange. Alors, voilà. L'agriculture est née il y a à peu près 11 500 ans. C'est l'époque holocène. Et pendant toute cette période qui nous a séparés depuis son invention jusqu'au siècle dernier, les hommes ne mangeaient pas à leur faim et c'est la courbe de production alimentaire qui tirait la courbe démographique. Et depuis le XXe siècle, l'utilisation routinière des combustibles fossiles, l'invention du moteur à combustion, a permis une explosion qui était contemporaine de la fin du petit âge glaciaire. Et en 50 ans, au début du XXe siècle, la terre travaillée par paysans a été multipliée par 20 et les rendements ont été multipliés par 5. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les surfaces cultivées ont été augmentées de 15%, surtout en Asie et surtout en Afrique. Les rendements, eux, de 75%, et la consommation moyenne par jour et par personne de plus de 30%. La durée moyenne de vie en un siècle est passée de plus de 25 ans et il a fallu attendre 1000 ans auparavant pour augmenter de 25 ans cette durée moyenne de vie. Alors, après un siècle, agriculture intensive, quel est le bilan aujourd'hui? Le bilan, c'est qu'on n'arrive pas à nourrir un humain sur 7, on rend obèse une personne sur 10, que beaucoup de petits paysans ne peuvent plus vivre correctement, qu'on consomme, cette agriculture consomme 4 fois plus d'énergie que l'industrie, qu'elle utilise 86% de l'eau douce sur notre planète, qu'elle crée des dommages à l'environnement et à la santé des paysans, et surtout, et c'est ce dernier point que je vais développer aujourd'hui, qu'elle appauvrit considérablement les sols et la biodiversité qui vit dans ce sol. Les terres cultivées, c'est à peu près 22% des terres émergées. Le reste, c'est-à-dire à peu près 2,5 milliards d'hectares. Le reste sont des sols qui ne sont pas exploitables parce que les pentes sont trop fortes, les climats sont trop arides, trop froids, les sols sont trop fins, trop pauvres ou trop humides. Et donc, il faut faire avec ces 2,5 milliards d'hectares. Et bien entendu, lorsque on entend à la radio ou qu'on lit dans les journaux que la terre arable, il y en a encore des milliers d'hectares, c'est tromper le monde. La terre utilisée aujourd'hui pour l'agriculture, c'est 1,6 milliard d'hectares pour les cultures. C'est pour les pâtures, les pâturages, 3,5 milliards d'hectares, mais les pâturages ne peuvent pas être de bons sols pour cultiver, bien entendu. Et le mauvais usage des sols fait que déjà, on a perdu 300 millions d'hectares, c'est-à-dire qu'on a une baisse de 20% des surfaces arables. Et que l'on sait que chaque année, c'est entre 10 et 20 millions d'hectares de sols arables qui sont détruits par dégradation. Voilà, ces chiffres sont clairs, ils relèvent de publications scientifiques très sérieuses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dégradation ? La dégradation des terres cultivées, c'est soit par pollution chimique, on vient d'avoir un exemple dramatique avec Fukushima, c'est la stérilisation par salinisation ou tout simplement par perte de biodiversité, et où c'est la destruction pure et simple du sol par érosion ou par urbanisation. C'est ce petit point que je vais développer un peu plus en détail. Et pour comprendre ce qu'est la Terre, je vais essayer de vous l'expliquer avec des termes scientifiques simples, mais je vais vous montrer que faire un sol, ça ne se fait pas en un jour. C'est un processus géochimique, biogéochimique compliqué, et qu'il faut bien le saisir avant d'utiliser la terre elle-même à des fins agricoles. Alors, la réserve, ce qui nous reste pour l'instant, c'est 600 millions d'hectares. Et on doit faire avec ça, non seulement pour nourrir la planète, hein, puisque c'est l'enjeu des décennies qui arrivent, mais c'est l'enjeu aussi pour garder l'humain à la surface de la Terre et pour le nourrir pendant des siècles, pendant des millénaires. Donc, la ressource sol est capitale. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est une ressource renouvelable ? Alors, les terres émergées sont constituées de roches dont la composition moyenne à 98% de ces roches est celle du granit. Hein, vous savez ce qu'est un granit. Ce granit s'est fait essentiellement pour moitié de gros atomes d'oxygène, et donc on peut considérer que la plupart des roches, c'est un agglomérat de balles d'oxygène au milieu desquelles se distribuent tous les autres atomes. Donc ces roches qui constituent la surface des terres émergées vont être arrosées par l'eau de pluie et vont petit à petit s'altérer et se transformer, ces roches dures, en une roche plus tendre. Et ces minéraux qui se forment sont essentiellement des minéraux argileux associés à des restes de ce que la roche n'a pas entièrement altéré, qui sont surtout des grains de quartz. Et on obtient comme ça un sol assez épais avec un matériau tendre sur lequel se développe une végétation qui elle-même va alimenter des horizons de surface qui vont constituer ce qu'on appelle l'humus. Alors, ces roches, voyons dans le détail comment elles s'altèrent. Prenons par exemple ici un feldspath avec une macle, et dans cette macle, on voit apparaître des tout petits trous. Et ça, ce sont des trous de dissolution dus à l'eau de pluie qui a pénétré ces roches. Et voilà ce que donne l'avancée de la dissolution de ces roches. Voilà un schéma. Ces fissures dans un feldspath, l'échelle, c'est le milliardième de mètre. Vous voyez que c'est excessivement fin. Et les molécules d'eau pénètrent dans ces fissures et les hydrogènes de ces molécules d'eau, qui sont de petits atomes, vont pénétrer la structure du minéral par ces petits puits et va prendre la place, ces hydrogènes vont prendre la place des gros cations, ici du potassium, mais ça peut être du magnésium, ça peut être du sodium. Et ces ions sont évacués par le flux de molécules d'eau jusqu'aux rivières et des rivières jusqu'aux océans. Et c'est une des raisons principales pour laquelle les océans sont salés. Mais une partie des oxygènes, des siliciums qui ont été évacués de cette roche vont se recombiner en de nouveaux petits minéraux minuscules que l'on appelle les argiles. Et ces argiles, c'est comme des valises, sont des minéraux enfeuillés, vont retenir au passage un certain nombre de ces atomes qui vont constituer les nutriments dont les plantes ont besoin. Alors voyons un peu. Alors d'abord, ces trous de dissolution L'altération est plus compliquée que ce que je vous l'ai dit. Elle se passe en trois temps, bien entendu, entre le minéral qui n'est pas altéré et la dissolution de ce minéral. Voilà à peu près le puits de dissolution que nous avons vu tout à l'heure au microscope électronique. Et vous voyez que c'est un mécanisme progressif, très lent et qui exige du temps. Pour vous montrer qui exige du temps et de l'énergie, hein, qui est figurée ici par cette courbe, entre le départ, la réaction entre le minéral et l'eau, et la dissolution du minéral et la libération de ces éléments. Alors, en définitive, voilà ce qu'on obtient. On obtient un minéral parental très altéré avec des trous et un minéral secondaire de précipitation ici qui est l'argile. Et vous voyez cette structure en nid d'abeille, on va l'expliquer dans deux minutes. C'est cette argile qui a une forte porosité, donc une grande réaction avec l'eau qui va permettre aux plantes de survivre. Voilà ces argiles, pour vous les schématiser ici, voilà un sandwich d'argile, hein. C'est un feuillet d'argile à deux couches, et vous voyez qu'il y a entre ces couches des atomes de magnésium, de calcium, il y a des phosphores, il y a des molécules organiques, et tout ce petit monde vient s'abriter sur les faces ou entre les feuillets de ces argiles. Et ça va constituer des minuscules petits sandwichs qui vont alimenter les racines des plantes. Et tous les nutriments dont les plantes ont besoin se situent à hauteur de ces feuillets d'argile. Mais pas que les plantes. Toutes les bactéries, qui elles aussi vivent, vont avoir besoin d'énergie. Et cette énergie, les bactéries, les micro-champignons vont toutes les prendre à tous ces nutriments qui sont des donneurs d'électrons. Un électron, c'est des donneurs d'énergie, d'électricité. Comme nous, nous avons besoin d'énergie. Eh bien, toute la flore et la faune micro du sol en a également besoin. Donc cette argile joue un rôle primordial. Et donc chaque feuillet, ici, les feuillets vont s'accumuler, s'empiler comme des jeux de cartes. Ils ne sont jamais isolés dans le sol et ils vont se regrouper en plusieurs, des fois 100 feuillets, des fois 20 feuillets, ça va dépendre du type d'argile. Et l'ensemble d'accumulation de ces feuillets, qui est beaucoup plus grande ici, comme le montrent ces pointillés, constitue un cristallite d'argile. Ici, c'est une smectite. Et c'est ainsi qu'on passe du granit dur, qui vous voyez, s'estompe à la faveur de cette argile tendre qui naît et qui va former le sol. L'argile elle-même, qui est constituée de feuillets, si tous les feuillets étaient dans le sens de la pression horizontale, c'est-à-dire allongée le long des feuillets, elle serait bien entendu imperméable. C'est comme ça qu'on fait des murs en argile imperméable, en tassant l'argile et en allongeant ces feuillets le long de la pression. Mais heureusement, ces argiles se mettent dans tous les sens et laissent entre eux des petits vides qui vont laisser passer une eau. Alors, c'est une eau compliquée, mais je vous passe les détails. Pour les kaolinites, ça se distribue comme ça, et vous voyez ici un micron, la taille de ces cristallites, c'est-à-dire eux-mêmes de l'empilement de plusieurs feuillets, ou l'empilement de feuillets pour un autre type d'argile, les smectites. Vous voyez ici que chaque cristallite correspond à peu près à l'empilement de 10 feuillets, et ici, cela vous donne 500 angstroms, l'échelle de la disposition de ces argiles, et c'est ça ce que je vous montrais tout à l'heure, les structures en nid d'abeille dans lesquelles l'eau peut réagir fortement avec toutes ces cristallites. Mais l'eau ne réagit pas seulement avec ces paquets de feuillets, ces cristallites, elle peut réagir aussi à l'intérieur des feuillets en hydratant les atomes qu'on appelle des cations qui tiennent ces feuillets assemblés par une, deux ou trois couches d'eau en faisant gonfler l'argile. Et c'est ces mouvements de gonflement et de rétraction de l'argile au cours des saisons qui fait que l'argile va s'organiser dans le sol en structure, en agrégat. Et ces agrégats, c'est la stabilité du sol argileux. C'est la raison pour laquelle le sol s'érode très lentement. Voilà ces agrégats qui sont ici de forme prismatique. Vous voyez que l'argile a réussi à s'organiser et donne une structure au sol que nous voyons ici de manière naturelle. Voilà ici un prisme dans un vertisol et voilà d'autres agrégats ici d'argile. Et bien entendu, l'eau va pénétrer jusqu'à l'intimité des feuillets et les racines et toutes les petites radicelles vont plonger dans cette argile et vont y pomper leurs nutriments. Voilà la végétation. La végétation, par sa partie aérienne, réagit avec l'atmosphère, c'est la fonction chlorophyllienne, et pompe le gaz carbonique de l'atmosphère. Mais l'eau et tous les nutriments sont pompés, sont pris dans le sol. Et dans ce sol, les bactéries vont jouer un rôle primordial pour l'assimilation de toutes ces molécules, leur passage aux racines, et c'est ainsi que l'eau devient la sève, monte et inonde tous les organes du végétal. Je reviens juste en arrière, bien entendu, selon les saisons, les végétaux vont perdre certains de leurs organes qui vont tomber en débris. Ces débris vont être fragmentés par la faune du sol. Et bien entendu, les bactéries vont découper tous ces débris et les rendre, c'est des véritables mécaniciens, les rendre en molécules assimilables par les plantes. Alors, en surface, on a un humus dans lequel s'installent la plupart des racines. Et cet humus est d'autant plus épais que l'on est dans des climats tempérés, alors que dans des climats plus chauds, la zone humifère est très faible parce que les bactéries, à cause de la température, ont une activité énorme et vont minéraliser, c'est-à-dire transformer cette matière organique. Et c'est la raison pour laquelle dans les forêts, ces forêts pompent bien sûr beaucoup de CO2 de l'atmosphère, mais en rejettent également par minéralisation des micro-organismes. Alors voyons maintenant l'érosion. Vous avez vu, faire un sol, ce n'est pas simple, ça exige du temps. Alors maintenant, voyons comment ce sol s'érode. Alors, l'érosion, c'est surtout la déforestation, bien entendu. Pourquoi ? Parce que la forêt joue un rôle protecteur par rapport à la pluie, à l'énergie cinétique de la pluie qui tombe sur le sol et qui fait déjà quelques dégâts. Mais en général, quand on déforeste, ce n'est pas pour le plaisir, c'est pour faire des fronts pionniers pour l'agriculture. Et donc, tout de suite après, on laboure. Et en labourant, bien entendu, on augmente considérablement l'érosion. Alors, voilà ici quelques images d'érosion. Alors, vous dites, bon, c'est un peu de terre qui s'en va. Ben, cette terre, c'est l'argile dont je vous parlais. Alors, quelquefois, là, je vous ai montré un sol labouré avec une pente peu faible, mais dès que la pente devient importante, le moindre chemin, le moindre sillon peut créer des ravines considérables. Et toute cette argile, ça ce sont des sols tropicaux très épais en argile, très vieux, et toute l'argile est emmenée par le ruissellement jusqu'aux rivières, et bien entendu viennent combler, voilà les rivières qui transportent, voyez la couleur de ces rivières, qui transportent toutes ces argiles. Et ces argiles viennent combler le lit de la rivière. En fait, vous voyez toujours couler l'eau, mais le lit, au lieu d'avoir 2 mètres de profondeur, n'a plus que 20 cm de profondeur. Et lorsque vous avez une condition climatique exceptionnelle, des orages exceptionnels, on parle d'inondations, tout de suite, des journalistes vous disent « Ah, le réchauffement climatique !» Mais non, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, c'est l'érosion du sol qui crée les inondations. Alors, voilà les vitesses d'érosion. Pour 20% des sols cultivés, l'érosion est supérieure à 20 tonnes d'argile dont je vous ai parlé, 20 tonnes par hectare et par an. L'érosion moyenne pour à peu près 50% des sols se situe entre 7,5 tonnes et 20 tonnes. Et il n'y a que 30% des sols qui n'ont qu'une érosion inférieure à 7,5 tonnes. Mais on peut avoir, et c'est le cas en Afrique, des érosions après déforestation jusqu'à 250 tonnes par hectare et par an, ce qui est considérable. Alors que l'érosion naturelle est inférieure à 0,5 tonnes par hectare et par an. Vous voyez donc que l'action anthropique, que les mauvais usages par des labours et souvent le long des pentes, est très préjudiciable à la conservation des sols. Alors, quand on compare comment un sol se forme, c'est-à-dire ici, le front d'altération, c'est-à-dire l'enfoncement biogéochimique du sol, il est de 50 mm pour 1000 ans. Vous voyez que c'est très lent à faire. On altère la roche, on forme des argiles, alors que le front d'érosion est de 10 à 100 fois plus rapide que ce que le sol se forme. Donc des calculs très simples vous montrent que d'ici un millénaire, la plupart des sols des pays tempérés à ce rythme-là auront disparu. Mais lorsque le sol s'érode, il n'y a pas que l'argile qui part. Je vous ai expliqué que l'argile est pleine de nutriments. Et donc, voilà un schéma simple, tiré d'une publication, qui vous montre que lorsqu'un sol reste sous forme de pâture, n'est pas cultivé, le carbone organique augmente, puis se stabilise. Il reste quand même, si cette pâture vient d'une forêt, il restera 6 fois moins de matière organique que dans la forêt, mais enfin, en pâture, ça se stabilise. Alors que sur 20 ans, lorsque vous faites des cultures permanentes, le sol perd toute sa matière organique. C'est-à-dire, si on ne rajoutait pas d'engrais régulièrement, le sol ne serait plus du tout productif. Alors, quand on altère pour un sol à une érosion très modérée, vous voyez, ça doit à ces 3 tonnes par hectare et par an, c'est dans des terrains relativement plats et pour à peu près 10% des sols labourés, les pertes qui suivent cette érosion, c'est 25 kg par hectare et par an de carbone organique, 10 kg par hectare et par an d'azote organique, 3 kg de phosphore, 10 kg d'ions échangeables, potassium, sodium, calcium et des oligoéléments. Alors les oligoéléments, c'est très important parce que les bactéries qui font la nitrification, par exemple, ont besoin de donneurs d'électrons. Quand vous avez un peu de chrome, ça donne beaucoup d'électrons et ça joue un rôle dans les enzymes au cours de la nitrification. Si vous supprimez ces éléments, vous enlevez à la microfaune du sol le moyen de compléter le cycle de nitrification, par exemple. Donc, vous enlevez à la biodiversité une capacité de jouer complètement son rôle. Mais comme vous rajoutez des engrais, avec cette érosion, c'est entre 10 et 25% des engrais ajoutés qui s'en vont aux rivières et qui vont profiter à la faune ou à la flore aquatique. Et c'est 30 à 40% des pesticides répandus. Les Des expériences ont été faites. Voilà, sur un sol non affecté par l'érosion, les rendements pour le maïs étaient de 6 tonnes à l'hectare. L'année d'après, après érosion du sol, il n'est plus que de 4 tonnes à l'hectare. Pourquoi ? Parce qu'on enlève cette partie superficielle du sol qui est la plus riche, c'est là où la biodiversité est la plus abondante et c'est là où les fertilisants naturels persistent. Voilà par exemple ici, c'est, on va parler juste un peu de biodiversité, qui part avec cette érosion, les vers de terre qui sont une charrue biologique extraordinaire et qui distribue et qui mélange la matière organique avec l'argile, ce qui permet aux molécules organiques d'être plus ou moins protégées de la minéralisation. Au lieu de partir en fumée, c'est-à-dire en CO2, parce que la matière organique, si vous prenez du carbone organique, c'est plus de l'oxygène en labourant, ça fait CO2, ça part. Pareil pour l'azote. Alors, en mélangeant avec l'argile, les molécules organiques sont protégées de cette minéralisation dans l'immédiat et peuvent perdurer plus longtemps dans le sol. Et bien entendu, la plus grande biomasse microbienne, faite de bactéries, etc., de champignons, d'algues, contrôle le cycle du CO2 et le cycle de l'azote. Alors, on ne se rend jamais compte, mais lorsqu'on regarde le poids vif dans les 30 premiers centimètres à la surface de la partie supérieure du sol, la biodiversité, c'est 8 tonnes à l'hectare, c'est-à-dire l'équivalent de 500 moutons en poids vif. Alors, avec cette érosion qui est considérable, cette perte de biodiversité, de fertilisants naturels, eh bien, depuis une vingtaine d'années, les productions, les rendements agricoles stagnent. Ceci, c'est pour l'Europe. Et bien entendu, ceci, c'est pour le monde. 4% de la production du maïs en baisse, moins 4%, c'est pas grand-chose. C'est la production du Mexique. Moins 6% pour le blé, là aussi, c'est pas grand-chose, c'est la production de la France. Et lorsqu'on fait sur ces terres déjà appauvries et labourées de la monoculture, on se rend compte que 40% de la biodiversité a disparu. Et si on rajoute des pesticides, c'est 80% de la biodiversité qui disparaît. Un mot sur l'urbanisation. Au début du XXe siècle, 14% de la population vivait dans les villes. On en est à 54%, et puis ça continue d'évoluer. Chaque mois, dans les villes des pays en voie de développement, c'est 5 millions d'habitants de plus. Et bien entendu, dans des pays en pleine croissance, aux États-Unis, c'est 100 mètres carrés de terre arable qui disparaît chaque seconde et 500 mètres carrés en Chine. Ce qui veut dire que ces deux pays, Chine et États-Unis, chaque année, urbanisent l'équivalent de 5 fois la surface du Danemark. Voilà une carte qui vous montre la dégradation des sols. C'est à peu près 1% de la couverture de sol qui est dégradée chaque année. Et nous devons absolument garder le sol comme une entité vivante. Alors, quoi faire ? Changer les techniques agricoles. Ça me semble très clair. C'est déjà dans de nombreux pays fait, pratiquement pas en France, très peu en Europe. C'est d'arrêter de labourer dans le sens de la pente et labourer au moins le long des courbes de niveau. Ça limite considérablement l'érosion. Et c'est de pratiquer le non-labour ou le semi-direct. Le fait de faire cela diminue considérablement l'érosion, puisque ça diminue d'un facteur à peu près 15 pour des pentes qui sont de l'ordre de 5% et par un facteur 25 pour des pentes qui sont de l'ordre de 9%. Ça veut dire qu'on supprime presque l'érosion anthropique. Et puis, bien entendu, ça décroît l'énergie utilisée par les tracteurs et les heures de tracteurs. Il me reste une minute, je pense. Mais en même temps, voilà la différence entre deux sols. Très bien. Voilà donc ici, sur une terre labourée normalement, une terre sans labour, vous voyez que les températures à la surface du sol sont beaucoup plus importantes dans les sols labourés que dans les sols non labourés. Donc l'eau qui est une réserve, le sol qui est une réserve d'eau, perd par évaporation beaucoup moins d'eau. Et bien entendu, c'est un gros avantage pour une agriculture et une productivité. Alors, je vais passer ça rapidement pour arriver là, à cette expérience qui est simple. Ici, vous avez à gauche toujours un sol expérimentalement montré par des gens de l'université de Cornell, un sol qui est un sol utilisé avec des fertilisants, des pesticides, comme on sait faire aujourd'hui dans l'agriculture intensive, et un sol qu'on ne touche pas, où sont préservées les bactéries, les micro-algues, les micro-champignons, tout ce qui existe dans un sol. Alors on l'emblave, et vous voyez que tout de suite, alors là je ne sais plus lire, mais je vais vous le lire avec mes lunettes, c'est au début de l'an, voilà, ça c'est des jours, hein, deuxième jour, quatrième jour et huitième jour. Alors regardez bien le développement des racines dans le sol sain, qu'on a absolument amendé en rien du tout. Vous voyez la répartition des racines et la partie supérieure du végétal. Vous voyez l'abondance des racines et le végétal est beaucoup plus grand. Alors, de nombreuses études ont été montrées et dans ce sol, on a une saturation par tous ces éléments bases qu'on appelle bases, le sodium, le potassium, etc. On accroît cette capacité d'échange de l'argile, on a une meilleure absorption par les racines des nutriments, et en définitive, on améliore considérablement la performance de la culture, et on a montré qu'on peut multiplier par 5 les rendements, en particulier au lieu de 2 tonnes à Madagascar de riz par hectare et par an, on obtient jusqu'à 12 tonnes par hectare et par an. Et les plantes, qui se portent bien parce qu'elles ont des tas de nutriments, c'est comme les humains, n'ont plus besoin de beaucoup de médicaments. Et donc on peut même supprimer les pesticides dans ces exploitations expérimentales, sans affecter pour autant les plantes. Alors, les terres arables pour demain sont essentiellement dans des pays tropicaux et en particulier en Afrique. Seulement, les sols africains, les sols des pays tropicaux ne sont pas les sols des pays tempérés. Et aujourd'hui, on fait 2 erreurs principales. C'est qu'on applique les techniques développées dans les pays tempérés aux pays tropicaux. Et là, c'est une erreur considérable. Et la deuxième erreur, c'est que les pays qui commencent à manquer de terres vont dans ces pays pour louer des terres. Et aujourd'hui, la location, moi quand j'écrivais mon livre qui est paru en 2012, j'en étais à 20 millions d'hectares. On en est aujourd'hui à 200 millions d'hectares de location de ces terres. Ce n'est pas grave de louer les terres à la limite, à condition de ne pas les rendre exsangues et de comprendre les mécanismes. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur l'importance du sol, qui est toujours négligé dans les livres concernant l'alimentation, pour vous dire que c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Hein, il faut plusieurs dizaines de millénaires pour développer un demi-mètre, un mètre de sol arable, et il faut quelques décennies pour détruire ce sol. Voilà, j'ai terminé.